15h, 17h.
Le Mac de l'après-midi, Sud Radio.
Le Mac de l'après-midi.
Marc Leval.
Très heureux de vous retrouver, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le Mac de l'après-midi, votre émission. On parle de quoi? On parle de la vie, on parle du couple, on parle de la famille, on parle de nos enfants, avec une thématique particulière que nous avons choisie aujourd'hui avec l'ensemble de l'équipe. On va parler de ces enfants dits surdoués, avec quelques chiffres: 400 000 enfants scolarisés surdoués, voilà, ça c'est un chiffre assez éloquent, 2,3% de la population en général, autant de filles que de garçons. Et en 2003, écoutez bien, parce que c'est surtout ce chiffre, moi, qui m'a profondément ému, 20% des adolescents hospitalisés en psychiatrie à l'hôpital de la Timone à Marseille étaient surdoués. Voilà, donc tout le problème est dans le diagnostic, visiblement. C'est ce que va nous confirmer également Jade, qui est avec nous. Bonjour Jade.
Bonjour Marc.
Alors, cette thématique des enfants surdoués.
Eh bien, on pourrait penser que les enfants intellectuellement précoces sont plus doués à l'école. Hein. Ce serait légitime,
c'est
Marc.
C'est logique, oui.
Eh bien, pas forcément, en fait. Un tiers des élèves qui présentent une précocité intellectuelle ont des difficultés psychologiques ou scolaires. Mmh. Et puis, on sait aussi qu'un tiers d'entre eux n'accèdent pas au baccalauréat. Pourquoi? Eh bien, souvent, parce qu'ils ne sont pas compris, car ils ne sont pas détectés. Alors, l'Académie de Lyon a mis en ligne un outil d'aide au repérage des élèves susceptibles d'être précoces. C'est très intéressant, écoutez. Mmh. C'est un enfant qui parle très tôt et avec aisance, mais qui dessine peu. Il est capable de lire seul très rapidement. Par contre, le passage à l'écrit est difficile. Mmh. Il rend des devoirs très courts, synthétiques, qui peuvent être jugés bâclés, du coup. En fait, il préfère comprendre plutôt qu'apprendre. Et puis, les activités de routine, comme le collage, par exemple, eh bien, ça l'ennuie. Alors qu'au contraire, tout ce qui relève du défi intellectuel, ça le passionne. Et il a aussi de fortes disparités dans ses résultats selon les matières. Par exemple, il va avoir de très bonnes notes en anglais, mais il va être mauvais en histoire. Du côté affectif, ce sont des enfants hypersensibles et très anxieux. Ils perdent facilement confiance en eux, ils se dévalorisent. Hein, c'est le classique « je suis nul » qu'on connaît bien. Comme on pouvait s'y attendre, c'est un enfant qui a souvent des problèmes avec l'autorité et la loi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il recherche la discussion avec les adultes. Le problème, c'est qu'il va agacer parce qu'il fait très attention aux détails. Hein. Il est tout le temps en train de chercher la faille, vous savez. Une fois, j'avais demandé à ma petite cousine de mettre la table et elle m'avait répondu « Non, parce que tu as dit « s'il te plaît » et « s'il te plaît », ça veut dire « si ça me plaît », or « ça ne me plaît pas ».
Elle est surdouée ou pas, votre petite fille?
Je ne sais pas. Elle n'a pas été diagnostiquée, en tout cas. Et puis, généralement, c'est un élève qui n'est pas très bien intégré dans sa classe, hein, il se sent un petit peu exclu. Ouais. Et pour terminer, c'est un enfant qui est vraiment très curieux. Alors si votre fils ou votre fille présente ces caractéristiques, il ou elle est peut-être intellectuellement précoce. Alors pour ne pas que ça se perde, hein, pour développer son potentiel, cet enfant aura certainement besoin d'un parcours scolaire un peu personnalisé. Et pour ça, eh bien, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'en parler à son enseignant.
Exactement. On va voir dans le détail précisément quelle est la réaction des parents, du corps enseignant également. C'est pas simple, hein, d'avoir un enfant surdoué, et qu'on confond très souvent, et vous l'avez très bien dit, Jade, avec quelqu'un, un enfant qui est assez capricieux, instable, qui ne comprend pas grand-chose nécessairement, ou en tout cas qui a une approche un peu particulière lorsqu'on lui demande de faire des exercices à l'école en particulier, sur les maths entre autres, ou d'autres matières. Les spécialistes, et notamment Monique de Kermadec qui sera avec moi dans un instant, elle est psychologue clinicienne et psychanalyste, elle est spécialiste de la précocité et de la réussite chez l'enfant, comme d'ailleurs chez l'adulte. Elle a écrit de nombreux ouvrages, hein, sur cette thématique, Le petit surdoué de 6 mois à 6 ans, également Pour que mon enfant réussisse aux éditions Albin Michel, coécrit avec Sophie Carquin, et Les surdoués en général, même éditeur, Albin Michel. On l'accueille dans quelques secondes sur l'antenne de Sud Radio et d'autres intervenants qui se succéderont. Merci Jade, à tout de suite si vous voulez intervenir. 0826 300 300, c'est le Mac de l'après-midi, vous êtes sur Sud Radio.
Marc Leval,
le Mac de l'après-midi,
Sud Radio.
Allez, nous parlons des enfants précoces. Alors, on devait avoir donc Monique de Kermadec, mais apparemment, on a un petit problème de liaison. On aura sans doute l'occasion de l'accueillir un peu plus tard dans l'émission. On perd pas au change. Françoise est avec nous également. Bonjour, Françoise.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir sur cette antenne. On parle bien sûr de ces enfants précoces. Vous connaissez bien le sujet, car vous êtes la maman de l'un de ces enfants.
Et voilà.
Un petit garçon, une petite fille.
Comment? Trois garçons et une fille.
Et ils sont tous précoces?
Ils le sont tous. Enfin, trois sont précoces avérés, puis la petite dernière, très certainement.
Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Vous allez nous expliquer de quelle manière vous le vivez au quotidien. Vous avez d'ailleurs fait un site internet qui s'appelle enfantprécoce.info,
oui.
Le tout au pluriel, bien sûr. Est-ce que d'abord, au quotidien, c'est compliqué ou pas?
C'est compliqué, non. Disons que le quotidien se passe bien. Ce sont des enfants vifs, intelligents, comme les autres.
Oui.
Le problème que l'on peut rencontrer, pour notre part, du moins, c'est le problème scolaire. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ces enfants vont à l'école qu'il peut se poser quelques difficultés.
Alors, il y a des... Parfois, on leur demande de sauter une classe. Ça, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Parfois, on leur demande également d'avoir une attitude équivalente, en tout cas, à leurs petits copains de classe. Et là, on comprend bien que dès l'instant où ils sont diagnostiqués précoces, c'est difficile de leur demander d'avoir la même attitude que les autres. Est-ce qu'ils ont été correctement diagnostiqués, d'abord, à la base ?
Oui, et disons que nous, donc ça a commencé avec le premier quand il est entré en maternelle. Donc avant, on ne savait rien. Et puis c'est vrai qu'on nous a convoqués au bout de quelques jours. On a un enfant qui rentrait à l'école content, heureux d'apprendre, heureux d'aller à l'école et qui a commencé à se renfermer tout de suite. Et on nous a convoqués au bout de 2 mois en nous disant que notre enfant ne réagissait pas bien, qu'il se renfermait, qu'il ne participait pas aux activités motrices. Et partant de là, on a commencé à faire une série de tests. On nous a envoyés chez la psychomotricienne, chez l'orthophoniste, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi, effectivement, notre enfant n'était plus comme à la maison.
Est-ce que ça vous a inquiété au départ? Est-ce que vous étiez anxieuse du
verdict?
Non, on
était surprise, C'est-à-dire qu'on avait un enfant... joyeux, qui avait envie d'apprendre à la maison et qui avait un comportement complètement contraire à l'école. Et c'est ce décalage entre son comportement à la maison et à l'école qui nous a fait nous poser des questions. Voilà. Et en même temps, on a commencé à discuter avec des parents qui avaient des enfants du même âge, à comparer ce qu'ils faisaient, mais tout à fait simplement, en discutant. Et puis on s'est rendu compte, en fait, qu'ils connaissaient déjà ses couleurs, les chiffres, qu'ils savaient compter. Et partant de là, on a fait des recherches sur Internet, et puis on a trouvé.
Bon, est-ce que, avant d'accueillir, tiens, justement, Monique de Kermadec qui est avec nous, Françoise, pardon, est-ce que, lorsque on vous apprend officiellement et qu'on met un mot, précisément sur le comportement de votre enfant, disant qu'il est précoce, est-ce qu'on est heureuse? Est-ce que vous êtes heureuse de vous dire « j'ai un enfant qui est précoce, donc surdoué, donc c'est magnifique ». Est-ce que vous avez eu ce comportement-là, cette réaction-là ?
Disons qu'on a été rassurés par rapport à, sur certains plans. On est heureux, oui, bien sûr, parce qu'on se dit c'est un atout, c'est une force.
On ne se sent pas mal,
a priori. Et puis, on nous dit, de toute façon, tout ira bien, soyez contents, votre enfant est précoce, tout se passera toujours bien. Et en fin de compte, on se rend compte par la suite que sur la précocité, peut se greffer quelques difficultés.
Et oui, vous allez nous en parler dans 2 secondes. 3 enfants, et ils sont tous les 3 précoces et surdoués. Ça, c'est quand même extraordinaire. À se demander si c'est pas génétique, vous l'êtes aussi ou pas, vous?
Je ne sais pas.
Alors, on va accueillir donc Monique.
Sur nos enfants.
Très bien. Monique de Kermadec qui est avec nous. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste, bien sûr. Vous connaissez bien le sujet des surdoués. Vous avez écrit énormément. J'ai énuméré vos livres là-dessus, notamment chez Albin Michel, entre autres. Je les donnerai tout à l'heure une nouvelle fois. Merci d'être là, docteur. Monique de Kermadec. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir quand on diagnostique un enfant, notre enfant, précoce surdoué?
Tout à fait. Moi, je pense que c'est une grande chance d'avoir un enfant précoce. Les parents ne doivent pas être trop impressionnés par cette nouvelle. Je sais que certains ont peur de ne pas être à la hauteur et il est important de les rassurer. Ce n'est pas parce qu'on est précoce qu'on aura nécessairement des problèmes à l'école.
Alors, j'ai remarqué une chose qui est quand même incroyable et c'est le chiffre que je donnais en démarrant l'émission. 20% des adolescents hospitalisés en psychiatrie à l'hôpital de la Timone à Marseille étaient surdoués. 20% des enfants hospitalisés. Donc, ils ont été mal diagnostiqués au départ?
Pas nécessairement. Je crois que certains enfants surdoués peuvent bien sûr avoir des problèmes comme d'autres enfants, mais que ce n'est pas nécessairement créé par la douance elle-même. Il ne faut pas que les parents craignent que des troubles psychologiques, voire psychiatriques, vont nécessairement se greffer avec un QI élevé.
Est-ce que on peut commencer à s'interroger sur le comportement de l'enfant quand il est tout petit, bébé?
Tout à fait, c'est ce qui m'a amené à écrire mon livre là sur les petits surdoués.
Exactement.
Ouais. La première chose que l'on remarque, c'est effectivement la qualité du regard, l'intensité de l'attention de ces tout petits dans les premières semaines, les premiers mois de la vie. Après, bien sûr, ça va être le langage qui va montrer l'éveil de l'enfant, la richesse du vocabulaire, et puis plus en avance vers l'âge de l'école, il y aura l'intérêt pour la lecture. Mais dès tout petit, on remarque un rapport particulier au monde et aux personnes qui sont autour.
Et ça, c'est assez étonnant. Sur le comportement, pas nécessairement que sur le regard, il est peut-être plus tonique, plus réactif à l'environnement.
Tout à fait, il y a une tonicité, il y a une grande réactivité. C'est-à-dire que le regard est là pour aider à décoder et à comprendre l'environnement. Mais j'étais très intéressée par le commentaire de la mère là, que je viens
Françoise.
D'entendre, qui ne savait pas si elle était surdouée elle-même. Alors, les petits-enfants précoces naissent dans des familles où, bien évidemment, les parents ont apporté ces qualités sur un plan génétique. Après, ils peuvent encourager, bien sûr, ces atouts. Mais un parent qui a un enfant précoce, bien souvent, vient en consultation dans un deuxième temps parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose de lui-même qu'il retrouve dans son enfant.
Alors, une question qui revient très régulièrement aussi, docteur Monique de Kermadec, c'est que si être surdoué signifie avoir des capacités intellectuelles très supérieures, on l'a compris, comment expliquer le nombre d'enfants surdoués en échec ?
Alors, on peut être surdoué en échec quand on a un petit peu trop longtemps compté sur ses facilités ou quand on n'a pas très bien compris la manière de fonctionner et que l'entourage s'est montré critique par rapport à la façon dont l'enfant gère l'information. Je crois que à ce moment-là, il est très important de demander une aide extérieure pour permettre à l'enfant de comprendre ce qui se passe en lui et pour lui donner des clés pour bien fonctionner à l'école.
Entre le moment, François, justement, puisque vous êtes la maman de ces trois surdoués, entre le moment où on sent bien qu'à l'école, ça fonctionne pas vraiment parce qu'il a une attitude, un comportement un peu particulier, une fois que vous l'avez diagnostiqué, qu'est-ce qu'il a fait, votre enfant ? Est-ce qu'on l'a mis dans une classe particulière ? Est-ce qu'il a suivi des cours particuliers ? Comment ça s'est passé ?
Alors nous, on s'est battu pour qu'il ait droit à un saut de classe qui nous a été préconisé par donc la psychologue qu'il a vu.
Oui.
Et voilà, le saut de classe a réglé, on va dire, la plupart des problèmes.
Donc il est passé de quelle classe à quelle classe ?
Il est passé, ça s'est fait tout de suite, ça s'est fait en petite section de maternelle.
D'accord.
Donc il a intégré l'année suivante, le temps que tout se fasse, il a intégré la grande section pour entrer en fin de compte en CP avec une année d'avance.
Avec une année d'avance qu'il a toujours aujourd'hui ?
Il en a deux actuellement.
Il a deux années d'avance, ça c'est quand même, ça c'est extraordinaire. L'attitude et le comportement des copains et des camarades de classe, est-ce que il est bien intégré ? Est-ce qu'on le regarde d'une manière un peu étrange en disant c'est un surdoué ?
Tout petit, ça ne pose pas tellement de problèmes. Au contraire, les enfants sont plutôt amusés parce que ce sont des enfants attirants qui attirent le regard, qui attirent l'attention, attirant, voilà,
ouais,
qui cherche à aller vers des enfants plus âgés aussi. Ouais. Il cherche tout le temps le contact des enfants plus âgés. Donc pour les autres enfants, ce n'est pas tellement un problème. Le problème, c'est le problème de nos enfants à s'adapter aux enfants de leur âge. La difficulté est plutôt là, parce que à 3 ans, donc c'est vrai qu'ils ont un niveau de langage très très élaboré. Et il y a une certaine incompréhension, en fin de compte, entre eux et des autres enfants de la même classe. Et c'est là le gros problème, en fin de compte.
Docteur Monique Kermadec, justement, le fait de sauter une classe, c'est une des solutions ?
Alors, ça peut être une solution, mais ce n'est pas une solution systématique, parce que je rencontre des enfants qui sont surdoués, qui sont précoces, et qui aiment bien maîtriser la matière, et qui ne veulent pas être bousculés et poussés trop vite en avant. Et ceux-là, il ne faut absolument pas les forcer à sauter une classe, parce qu'autrement, ils seraient anxieux, ils risqueraient d'être moins performants. Le moment idéal pour sauter des classes, il est vrai, ça peut être la moyenne section de maternelle, ou de faire le CE1 et le CE2 en une seule année. Je ne recommande pas tellement de sauter, par exemple, un CM2, qui est un moment de préparation au collège. À l'avance en âge, elle peut poser problème plus tard, à l'adolescence ou au lycée, quand l'enfant n'a pas encore, est en pleine croissance et n'a pas encore la résistance physique et psychologique pour faire face au poids des demandes qui vont être faites en se rapprochant, par exemple, des classes préparatoires.
Mais ce que dit en fait le corps enseignant quand il se retrouve face à un enfant précoce, donc surdoué, et qui ne saute pas cette classe, et qui a donc cette faculté extraordinaire de pouvoir résoudre les problèmes et terminer ses devoirs avant les autres, c'est qu'il agace profondément parce que du coup, il est plus attentif parce qu'il a réglé le problème bien avant tout le monde.
Voilà, mais on peut donner à l'enfant des fiches un petit peu plus complexes sans que ça apparaisse un travail supplémentaire et donc une punition. On peut lui donner des recherches à faire, recherches dont il parlera en classe plus tard. Il faut vraiment bien tenir compte de la position affective de l'enfant par rapport à l'accélération du rythme. Tant elle peut être positive qu'elle peut être négative si elle est mal gérée, si l'enfant craint qu'il lui manque quelque chose quand il va arriver dans la classe supérieure.
On va parler dans un instant avec vous deux. Est-ce qu'on peut vous garder un petit peu, docteur, ou pas?
J'ai une famille qui m'attend, 5 minutes, et je vais devoir vous dire un grand regret parce que j'aimerais vraiment rester pendant toute l'émission.
Mais le problème, c'est qu'on a une page de pub et les 5 minutes vont passer, à mon avis. Donc, écoutez, on se retrouvera une prochaine fois, si ça ne vous dérange pas, docteur. Je vous remercie pour ce début d'éclairage.
Moi aussi, c'était un grand plaisir de participer aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monique de Kermadec. Merci. Vous restez avec moi, Françoise, encore un petit peu?
Oui.
Hein, s'il vous plaît, j'ai quelques questions à vous poser. Vous nous direz, tiens, donnez-moi les prénoms des bambins, là, des trois qui sont surdoués, là, c'est fantastique.
Guillaume, Laurent et Alexis.
Voilà, Guillaume, Laurent et Alexis. Et la petite, il y a une petite aussi, non?
Oui, une petite dernière, Émilie.
Émilie, voilà, qui sera donc, elle aussi, sans doute, surdouée. Ça, c'est génial. Guillaume, Laurent et Alexis. On marque une pause, nous revenons, on parle de ces enfants surdoués, précoces. C'est dans la thématique choisie aujourd'hui, sur Sud Radio, dans le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi, Sud Radio.
Marc Leval.
Dans le sujet choisi cet après-midi sur Sud Radio, on parle des enfants précoces, ces enfants surdoués, avec le cas de Guillaume, de Laurent, d'Alexis, la petite Émilie qui est encore tout bébé. On ne sait pas encore tout à fait si elle est diagnostiquée ou pas enfant précoce surdoué, mais en tout cas les trois premiers dans la fratrie sont déjà surdoués. Ça veut dire que dans les prochaines années, si tout est géré de manière intelligente, et j'en doute pas une seconde avec les parents et Françoise en particulier, je pense que tout devrait bien se passer. On va accueillir le docteur Gensio Fachin qui est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour.
Je suis ravi que vous soyez là parce que vous êtes bien sûr psychologue et spécialiste des surdoués. Vous avez beaucoup écrit là-dessus, et notamment un ouvrage qui s'appelle « Aider l'enfant en difficulté scolaire » aux éditions Odile Jacob, c'était en 2006. Et puis « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir ». Même éditeur d'ailleurs, Odile Jacob.
Alors,
Vous n'avez peut-être pas entendu le témoignage de Françoise qui a donc 4 enfants dont les 3 premiers sont d'ores et déjà diagnostiqués précoces et surdoués. Tiens, d'abord on dit « un enfant précoce est un enfant surdoué ». Ça veut dire la même chose ?
Oui, absolument. Ce sont juste des questions de terminologie. C'est vrai que bon, l'enfant intellectuellement précoce, c'est finalement les noms qui ont été choisis par l'Éducation nationale, parce que c'était bon plus correct que d'employer notre terminologie. Mais quand on parle d'enfants précoces, d'enfants surdoués, bon, moi j'ai pris l'habitude depuis très longtemps d'appeler ces enfants-là des zèbres pour sortir justement de cette terminologie-là. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de HP pour haut potentiel et non pas pour Harry Potter, quoique...
Harry Potter.
Quoique...
C'est des magiciens quelque part, à leur façon, à leur manière, sont des magiciens.
Voilà, des magiciens et des enfants différents, ouais. Et des enfants justement qui ont besoin d'être accompagnés différemment.
Ouais.
Hein, c'est pour ça que le clin d'œil à Harry Potter n'est pas tout à fait anodin.
Exactement. Alors on a parlé tout à l'heure justement avec Françoise précisément de ses enfants, de sa fratrie et du fait peut-être de sauter une classe. C'est ce qu'ils ont fait notamment. D'abord Françoise, les trois ont sauté une classe?
Oui, tous les trois.
Tous les trois ont sauté une classe, donc ils ont tous un an d'avance là.
Tous.
D'accord. Et est-ce que et ça à chaque fois dans les trois cas précisément aussi bien pour Guillaume, Laurent et Alexis, ça peut-être pas réglé, mais en tout cas ça a équilibré leur mode de vie.
Oui, tout à fait. Après chacun étant différent parce que ils ont sauté une classe, mais chacun ayant des aptitudes différentes malgré tout. Mais ça a équilibré les choses. Oui, bon. Oui.
Est-ce que docteur Gensio Fachin, est-ce qu'il y a une trame, si je puis dire, spécifique pour les enfants surdoués, ces enfants précoces, ou est-ce qu'ils sont vraiment différents en fonction de leur caractère?
Oui, bien sûr. Ils ont à la fois des caractéristiques communes, parce qu'effectivement, ce qui les singularise, c'est à la fois leur grande puissance de pensée, leur grande capacité d'analyse, leur façon de comprendre et d'être au monde, qui est très particulière, qui leur donne aussi une immense lucidité, une très grande rapidité, une très grande mémoire, une très forte intuition. Ce sont aussi des enfants particulièrement sensibles, qui ont des réactions émotionnelles très importantes, hein, donc ce sont des enfants très réactifs émotionnellement, donc ça ce sont pour les caractéristiques communes. Et ensuite, bien évidemment, chaque enfant est unique, comme les rayures du zèbre d'ailleurs,
ouais.
Chaque enfant est unique et chaque enfant a son histoire de vie, a son histoire familiale et a sa personnalité qui va donner une coloration différente à chacun.
Ça veut dire qu'il faut s'adapter à chaque fois à la personnalité de cet enfant.
Absolument, c'est comme le saut de classe dont parlait Françoise. En fait, pourquoi on fait sauter une classe à ces enfants-là? C'est pas l'idée d'aller plus vite, parce que aller plus vite pour faire quoi? Ça n'a aucun intérêt d'arriver plutôt au bac ou n'importe où ailleurs. Mais l'idée, c'est quelquefois de pouvoir ajuster le niveau de compétence de certains enfants au niveau de complexité scolaire. pour que ils s'ennuient moins, pour que ça attise plus leur curiosité, pour qu'ils se retrouvent quelquefois aussi avec des enfants un peu plus matures, parce que souvent on parle d'immaturité de ces enfants-là, ce qui est vraiment le contraire, parce que ce sont des enfants qui cherchent plutôt à avoir des relations authentiques avec les autres, qui cherchent à avoir des formes de discussion qu'ils ne trouvent quelquefois pas avec des enfants plus jeunes ou même de leur âge. Donc en fait, c'est simplement pour tenter de trouver un équilibre. Il ne s'agit pas de faire accélérer. L'accélération n'a aucun intérêt en soi.
J'ai une pensée pour les parents qui nous écoutent en ce moment, docteur, et qui se disent « Attends, si ça se trouve, mon fils qui est un petit peu, qui a des problèmes d'attention peut-être à l'école, qui n'est pas très concentré ou qui a parfois un ton et une attitude qui dérange le professeur ou l'instit, si ça se trouve, c'est un enfant précoce surdoué. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la foulée quand on se pose ce genre de questions? Tester, faire des tests?
C'est-à-dire si ça se trouve, oui. Mais si ça se trouve, non. C'est-à-dire qu'il y a mille et une raisons. Il y a mille et une raisons pour lesquelles on peut avoir des difficultés d'attention, de concentration, ou avoir une certaine impertinence dans son environnement scolaire ou familial d'ailleurs, ou se sentir différent ou décalé par rapport aux autres. Ouais. Mais si effectivement toutes ces singularités sont très présentes, sont signalées aussi par les enseignants et peuvent pénaliser un peu l'enfant sur son parcours scolaire, je crois que la bonne attitude d'un parent, c'est toujours se poser la question de qu'est-ce qui se passe avec mon enfant et comment je peux comprendre les difficultés qui sont les siennes ou les particularités qui sont les siennes. Et là, bien sûr, ça passe par une consultation chez un psychologue et un bilan, non pas pour étiqueter, mais pour explorer le fonctionnement à la fois intellectuel et affectif de l'enfant et mieux comprendre ce qui se passe et avoir une carte du territoire. Je pense que les parents, souvent, ils ont besoin d'avoir une carte du territoire pour savoir comment cheminer avec leur enfant et comment l'accompagner au mieux.
Évidemment.
Donc de faire un bilan, c'est toujours un éclairage pour accompagner son enfant, quelles que soient ses caractéristiques.
Françoise, dans votre famille, donc vos enfants, je le disais, sont tous des enfants surdoués, et on dit que ces enfants sont des étonnants testeurs de limites, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, comme ils ont une sensibilité particulière, ils ont besoin d'une précision absolue, aussi bien c'est au sens propre du terme, et donc du coup ils veulent aller jusqu'au bout des choses, ils ont besoin de savoir le pourquoi du comment, et parfois ça va tellement loin que ils testent vos limites pour savoir s'ils peuvent encore aller un peu plus loin. Est-ce que vous le vivez ça au quotidien?
Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont très à cheval sur les mots. Les mots ont un sens très précis et ils n'en sortent pas. Et à un moment donné, ils vous testent, vous demandent pourquoi, comment. Alors, je pense qu'il faut leur dire à un moment donné, là, je peux te répondre. Et si ça ne va plus, il faut marquer des limites. C'est-à-dire qu'il faut il faut pouvoir leur dire maintenant stop, on ne peut pas te répondre. Alors, on va chercher dans le dictionnaire, on verra plus tard. Ou à un moment donné, la règle est comme ça, donc on agit comme ça parce qu'on l'a décidé. Point. On explique quand on le peut et on n'explique plus quand on ne peut plus, parce que sinon, c'est vrai qu'on peut avoir affaire à de vrais petits tyrans qui vont pousser toujours plus loin, et ça peut être sans fin.
Mais en même temps, on a tous, nous, en tant que parents, connu ces phases où les enfants, c'est le pourquoi, comment. C'est-à-dire que ça, il y a un moment donné dans l'âge où on y a tous droit, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et comment ça se fait que, et tu crois que, etc. etc. Donc ça, c'est pas spécifique aux enfants surdoués.
Oui, absolument, bien sûr. Ça fait partie du développement. Ça fait partie d'une phase essentielle, d'ailleurs, que l'enfant, entre guillemets, questionne le monde et questionne son environnement pour essayer d'y mettre du sens et de comprendre et de tester aussi ses propres limites et les limites des adultes qui l'entourent et en premier lieu ses parents. Mais c'est vrai que chez ces enfants-là, le questionnement va prendre une tonalité qui ne va pas pouvoir se suffire, et Françoise le disait très bien, d'explications approximatives, d'à peu près ou d'explications toutes faites. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont toujours chercher au-delà de ce qu'on leur explique, au-delà des mots, au-delà de la compréhension que les autres peuvent tenter de donner. Et ils sont eux-mêmes, Françoise disait qu'il faut leur mettre des limites, et je suis tout à fait d'accord, bien sûr, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour eux, c'est souvent une souffrance, parce que leur cerveau est toujours en marche, ils ont vraiment une pensée en arborescence, c'est-à-dire une question entraîne toujours une nouvelle question, une nouvelle hypothèse et rarement une certitude. Et c'est, et ça devient une source d'anxiété pour certains enfants, parce que justement, c'est sans limite. Leurs pensées sont limitées et leur capacité d'analyse est tellement puissante que tout va très vite dans leur tête. Et finalement, ils cherchent souvent, quand ils sont très attachés à la précision absolue du sens des mots, ils cherchent à être rassurés, parce que authentiquement, il y a des moments où ils ne comprennent pas. Il suffit qu'on ait employé un mot de façon un peu générique, et ben eux vont comprendre à côté. Et après, ça va générer toute une cascade de conflits ou d'incompréhension qui peut être où chacun peut s'essouffler finalement.
Ouais. On peut imaginer qu'effectivement à la longue ça puisse être compliqué. On va revenir dans quelques secondes avec vous. Juste avant de marquer une pause, je voulais poser une dernière question à Françoise. Est-ce que vos enfants ont une aptitude particulière quant aux activités extrascolaires? Parce qu'on pourrait s'imaginer qu'un petit surdoué est dans sa chambre, il passe sa vie, je sais pas moi, sur son ordinateur ou à lire des bouquins, les encyclopédies. alors c'est un peu, évidemment, c'est très caricatural hein, ce que je dis.
Mais c'est très loin de la réalité.
C'est très loin de la réalité sans doute, mais justement je voulais le témoignage d'une maman qui vit ça au quotidien. Est-ce que justement le fait d'être surdoué, il est meilleur en foot, il est meilleur au basket, il est meilleur en judo?
Les miennes n'ont pas particulièrement d'aptitudes sportives, par contre c'est vrai que le sport, mais ils ont de fortes aptitudes en musique, alors la musique les intéresse énormément, ils sont assez bons, ils aiment beaucoup bricoler, imaginer, créer, inventer, ils sont énormément dans l'abstrait et dans l'imaginaire, donc c'est-à-dire qu'on pourrait les laisser aller très très loin dans l'imaginaire. Et la musique.
Du coup, lorsque vous les voyez, je sais pas, est-ce qu'ils jouent encore des jeux comme les Playmobil, les Lego, des choses comme
Lego,
ça?
Les Lego, donc ils se créent des mondes. C'est une formidable source de créativité aussi, donc c'est vrai que le Lego est un jouet très très porteur pour eux.
Ouais. Et c'est le deuxième, d'ailleurs, c'est le deuxième jeu qu'affectionne particulièrement les petits Français, et en particulier pour les fêtes de fin d'année. Bien, on marque une pause. Nous revenons avec le docteur Jeanciot Fachin, bien sûr, psychologue et psychanalyste, et spécialiste, pardon, des surdoués en particulier. Françoise, la maman de cette fratrie extraordinaire d'enfants surdoués. Guillaume, Laurent, Alexis, la toute petite Émilie. On marque une pause et nous revenons dans un instant.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
Merci d'être avec nous. Bel après-midi. Le Mac de l'après-midi avec ses enfants surdoués et ses enfants précoces avec Jeanciot Fachin, qui est psychologue et spécialiste des surdoués. Je rappelle deux ouvrages, entre autres, de Jeanciot. C'est bien sûr aider l'enfant en difficulté scolaire aux éditions Odile Jacob. Et puis l'enfant surdoué, l'aider à grandir et l'aider à réussir. Même éditeur, hein, Odile Jacob. Alors, puis nous avons bien sûr cette maman, Françoise. Méritante, hein, c'est ce que j'ai reçu un petit SMS qui m'a dit donc. Alors quatre enfants, c'est déjà du boulot, mais alors en plus quand ils sont tous les quatre qui passent leur temps à vous poser des questions existentielles, qui veulent tout savoir, aller jusqu'au bout, avoir les vraies réponses, quand chaque mot a son importance, chaque mot est pesé chez un enfant précoce surdoué, ça doit pas être facile tous les jours, mais en même temps c'est beau et ce sera sans doute un avantage considérable pour eux. Alors je me posais tiens une question justement, je vais la demander à Françoise. Quand on décide de prendre en main, bien sûr, son enfant, parce qu'il est diagnostiqué enfant précoce surdoué, on sait que l'accompagner, c'est extrêmement important pour le faire grandir, l'équilibrer, bien sûr. Est-ce qu'il a ce sentiment de supériorité, cet enfant, puisqu'il sait qu'il est, il a un plus par rapport aux autres?
Non, je pense qu'au départ, ils se sentent rassurés. Ils sont rassurés de se reconnaître quelque part dans leur surdouement, si on peut dire. Mais ce sont des enfants qui sont très humbles et ne sont ni fiers. Ils sont naturellement comme ça, donc ils n'ont pas de sentiment de fierté, enfin du moins pour les miens, ni de... Voilà, c'est naturel pour eux, donc... À la limite, et au début, ils ne le comprennent même pas. Ils se sentent rassurés d'être comme ils sont, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. Donc, il n'y a pas ce sentiment de supériorité ou de...
Ce qui pourrait très bien, Jeanciot Fachin, ce qui pourrait parfaitement arriver, hein.
Ce qui n'arrive strictement jamais.
Ah bon, d'accord.
Mais je vais m'en expliquer. Ce qui n'arrive strictement jamais, parce que justement, c'est pas le fait d'être surdoué, c'est pas avoir plus que les autres, c'est pas avoir quelque chose en plus. C'est fonctionner différemment. C'est-à-dire, c'est qualitativement que ça se joue. Ouais. C'est autrement. Donc, ces enfants peuvent ressentir un sentiment de décalage et avoir du mal à s'ajuster. Et vous disiez que probablement plus tard, ils auraient une vie formidable. Et c'est pas gagné. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en grande difficulté et en particulier en grande difficulté scolaire parce que précisément, ils n'arrivent pas à s'ajuster aux demandes scolaires. Il y a beaucoup de ces enfants qui sont dans des refus scolaires anxieux, qui ont des phobies scolaires graves. Là, je sors de consultation avec une jeune surdouée qui sort à peine de sa phobie scolaire.
Mais la faute à quoi, Jeanne Siofachin, au départ? Parce que peut-être qu'elle n'a pas été soutenue au bon moment, que la famille, l'entourage n'est pas à la hauteur. La faute à qui?
Je ne sais pas si c'est la faute de quelqu'un. En tout cas, c'est le décalage. C'est-à-dire, c'est comme si vous preniez quelqu'un, par exemple, qui est myope, que vous l'équipez pas de lunettes et vous lui demandez de se suradapter en permanence à un mode de fonctionnement qui est très éloigné du sien. C'est-à-dire que souvent, les enfants surdoués à l'école ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Ils décodent pas les implicites de l'école. Pour eux, si on leur pose une question, il faut qu'ils réfléchissent. Souvent, à l'école, on pose des questions simplement pour restituer le cours, par exemple. Ce sont des enfants qui, face à un problème mathématique, alors pas tous, hein, ce sont des généralités, pardon, mais face à un problème mathématique, il y en a beaucoup d'entre eux qui vont avoir de façon très spontanée et intuitive la réponse. Mmh. Mais ils vont être incapables d'argumenter et de justifier les procédures par lesquelles ils sont passés, parce que ça s'est activé tellement vite dans leur cerveau que c'est passé par des réseaux de neurones, hein, on le voit avec les IRM fonctionnels, quand on voit le cerveau fonctionner, par des réseaux de neurones inconscients.
Hein. Mais où, ça leur... freudien, hein. Mais où ça leur pose un problème alors à ce niveau-là?
Ben parce qu'ils finissent par ne plus réussir à s'ajuster et ne plus rien comprendre à ce qu'on attend d'eux. Et ce sont aussi souvent des enfants qui, au début, sont très curieux parce qu'ils se disent qu'à l'école, ils vont apprendre des tas de trucs et qui sont d'une certaine façon déçus par l'école qui ont aussi besoin d'avoir avec les autres des relations très authentiques et très fortes. Ce sont d'une certaine façon, on pourrait presque résumer en disant que ce sont des enfants intenses. Tout est intense chez eux. Mmh. Leur façon de penser, leur façon de réagir, leur façon de ressentir. Et du même coup, l'espèce de fonctionnement de l'école qui est très séquentiel, qui est une espèce de logique ou assez répétitive, où on apprend quelque chose et puis on répète, on re-répète.
Qui n'est pas adapté à eux.
Et du coup, ce sont des enfants qui s'ennuient, qui décrochent, qui n'arrivent plus à avoir leur curiosité qui est attisée et du coup qui se sentent eux-mêmes un peu comme le... Vous savez, c'est un peu l'histoire du vilain petit canard. Ils se sentent le vilain petit canard et ils n'arrivent même pas eux-mêmes, et le Françoise le disait très bien, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi eux, ils se sentent pas bien ou pas à l'aise.
Oui, mais ça, c'est parce qu'ils se retrouvent dans une structure qui n'est pas adaptée, justement, à leur faculté. Oui, oui. Mais à partir du moment où ils sont diagnostiqués, on sait aujourd'hui comment les encadrer sur le plan scolaire, la manière dont il faut leur enseigner, justement, les cours, on sait faire aujourd'hui. Donc, je comprends pas qu'une adolescente qui soit, vous disiez justement, vous étiez en consultation juste avant, et une adolescente qui se sent extrêmement mal et qui a des phobies scolaires parce que, justement, elle ne se sent pas à sa place ou qu'elle est en décalage avec les autres. Mais ça prouve tout simplement qu'elle n'est pas au bon endroit.
Oui, mais ce que vous dites, c'est très optimiste et ça serait formidable que ça soit comme ça. Quand vous dites, non mais c'est formidable, je vous entends parler, c'est génial, mais quand vous dites on sait faire, eh ben, je crois que il y a maintenant de plus en plus, et grâce à des émissions comme celle-là et à la médiatisation de tout ça, c'est-à-dire il y a de plus en plus une sensibilisation, y compris l'éducation nationale, y compris de certains enseignants, y compris de certains établissements scolaires par rapport à ces enfants-là. Mais aujourd'hui, en France, il y a très peu d'enseignants ou d'établissements qui, pour reprendre votre expression, savent faire. Il y a des établissements qui sont sensibilisés. Et en réalité, tous les travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant montrent que ce n'est pas forcément une pédagogie adaptée, très académique, mais plutôt une capacité à laisser ces enfants dans le flux de leur mode de fonctionnement et à accepter leur singularité et ne pas vouloir absolument les normer et les formater comme les autres, les faire rentrer dans le cadre. Et c'est ça qui leur fait, excusez-moi, mais Je vais oser l'expression péter les plombs.
Oui, péter les plombs.
Parce que cette adolescente avec qui j'étais, d'ailleurs, nous, on a créé une association qui s'appelle Zebra Alternative, qui est un lieu d'accueil pour justement accueillir ces enfants déscolarisés et qui n'ont plus aucun endroit où aller et qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'on ne sait plus, les familles ne savent plus quoi faire, ces enfants. Vous voyez, ça me met presque en colère. Parce qu'il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont en souffrance. Bon, les enfants de Françoise sont bien accompagnés. Françoise est bienveillante.
Oui, ça s'entend.
Est bienveillante avec eux. Mmh. L'école a su, pour l'instant, et c'est formidable, avoir des réponses adaptées, au moins en proposant un saut de classe. Ça veut dire qu'ils ont su entendre la différence de ces enfants-là.
Mmh. Alors... Oui, c'est vrai que on se pose cette question. Et puis, la première réflexion qui vient, c'est de se dire quel gâchis. Quel gâchis, quand on a ce potentiel-là, de ne pas pouvoir, justement, le mettre à bon escient et puis que, ça le favorise dans son cursus scolaire ou universitaire. On marque une dernière pause, la dernière partie de l'émission. Ça passe tellement vite. Et je reviens pour évoquer, bien sûr, une nouvelle fois, une dernière fois, ces enfants surdoués. Les enfants précoces, c'est la thématique du Mac de l'après-midi sur Sud Radio.
Le Mac de l'après-midi Sud Radio.
Allez, quelques minutes encore pour parler de ces enfants surdoués avec Jeanne Siofachin, qui est donc psychologue et spécialiste des surdoués. Son dernier ouvrage, L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir, aux éditions Odile Jacob. Et Micheline Aubergel, que j'accueille. Bonjour Micheline.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes présidente de l'association pour l'épanouissement des HP, les fameux haut potentiel.
Enfants, oui, à haut potentiel intellectuel.
Exactement. Comme ce que disait donc Jeanne Siofachin tout à l'heure, HP pour Harry Potter. Moi, je trouve que c'est une très très belle image. C'est des Harry Potter en puissance, ces enfants. Et évidemment, il faut faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir et se sentir bien. Un mot sur votre association. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre quotidiennement? Vous répondez surtout aux questionnements des parents qui peuvent s'inquiéter de l'attitude de leur enfant.
Nous allons dans trois directions, en fait. Les parents, bien sûr. Nous accueillons les familles et nous les aidons à solutionner les problèmes qui peuvent se poser à elles. Ouais. Nous avons une direction vers les enseignants. Nous faisons des animations dans les écoles auprès des enseignants ou de la formation. Et nous avons une action, bien sûr, pour les enfants. C'est-à-dire que nous organisons des activités qui leur sont absolument spécifiques.
Oui, adaptées.
Qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Mmh. Voilà.
Jeanne Siofachin, c'est le problème. Vous pensez que c'est le problème sur le corps enseignant, précisément, qui a un souci, on va dire, d'aptitude à gérer ses enfants surdoués?
Oui, c'est vrai que, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui peuvent mettre, et bonjour Micheline, ce sont des enfants qui peuvent se sentir effectivement, des enseignants qui peuvent se sentir mis en difficulté par certains de ces enfants parce que, justement, leur mode très différent de fonctionnement peut attaquer un peu leur sentiment de compétence, c'est-à-dire leur savoir-faire habituel et qui ne va pas fonctionner avec ces enfants-là. Mmh. Donc, moi, je trouve que les enseignants, aujourd'hui, en tout cas, mais les associations ont fait effectivement beaucoup pour ces enfants et pour ces familles. Les enseignants sont aujourd'hui beaucoup plus sensibilisés et ils sont très demandeurs. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles et il y a une association aussi qui s'appelle Précoce, qui est une association de chefs d'établissement qui accueille ces enfants précoces dans les établissements. Je trouve que les enseignants, finalement, ils sont en demande qu'on les aide eux aussi, c'est-à-dire qu'on les aide à décoder ces enfants-là. Mmh. Et c'est vrai que le rôle des associations est important, que bon, il y a l'association de Micheline, il y a l'AMPEP, qui est l'association historique et qui est une très grosse association qui accueille aussi les familles et les parents et qui, comme le dit Micheline, avec son association, permet aussi à ces enfants-là d'avoir des moments où ils se retrouvent entre eux, où ils peuvent faire des activités spécifiques et puis où les parents sont accueillis parce que les parents ont besoin d'être entendus dans les difficultés qui sont les leurs. Mmh. Et quelquefois, quand vous dites à un autre parent « Mais moi, j'ai des difficultés avec mon enfant parce qu'il est précoce », mais il y a certains parents qui ne peuvent pas entendre ça.
Eh bien oui, je suis d'accord.
Ils ont cette espèce de mythe que d'avoir
d'image,
un enfant précoce,
oui, absolument.
C'est le top et, et qu'ils ne vont pas en plus se plaindre que c'est difficile.
C'est quand même un problème qui est de plus en plus... je suis désolée, j'interviens...
Allez-y.
En plein milieu. C'est quand même un problème qui est de plus en plus pris en compte par le ministère de l'Éducation nationale.
Absolument.
Parce que nous, en qualité d'association, nous avons été intégrés à un groupe d'études depuis 2 ans qui a abouti à l'élaboration d'un texte et de directives pour les enseignants. Et le problème, c'est que l'information ne passe pas. Et qu'il y a des textes, il y a des directives sur le site du ministère de l'Éducation nationale et du SCOL à l'attention des enseignants. Et c'est à nous, associations, de communiquer là-dessus, de le faire savoir.
Oui, c'est pour ça que le rôle des associations est extrêmement important, parce que c'est grâce aux associations que l'éducation nationale effectivement a commencé à se préoccuper. Et c'est vrai, Micheline Habergel a tout à fait raison, c'est-à-dire que les textes existent aujourd'hui, ils sont pas mis en application, et surtout les moyens nécessaires, ne serait-ce que dans la
formation. Les moyens de communication de ces textes.
C'est ça.
Il n'y a pas de moyens de communication.
Les moyens ne sont pas mis en œuvre.
Ouais, alors ça évidemment, et d'ailleurs il n'y a pas que dans votre domaine, hein, dans ce domaine spécifique. Il y en a tellement.
Mais voilà, grâce à vous, on peut en parler aujourd'hui.
On essaie en tout cas d'en parler humblement. Je voudrais vous souhaiter bon courage à toutes les deux. Merci pour cette intervention. Je rappelle donc Micheline Habergel, vous êtes la présidente de l'Association pour l'épanouissement des enfants à haut potentiel intellectuel. Et puis bien sûr, mille merci à Jeanne-Sio Fachin, psychologue et spécialiste des surdoués. Je rappelle son ouvrage aux éditions Odile Jacob, L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir s'il est détecté, dépisté, on va dire, diagnostiqué dès le départ, et bien encadré, bien suivi avec l'ensemble des associations qui œuvrent pour vous aider. Ça peut faire de belles choses. Encore faut-il, et vous l'avez entendu, faire ça dans les normes et intelligemment, et puis le plus rapidement possible. Mille merci. Vous restez avec nous. Dans un instant, une autre thématique dans ce MAC de l'après-midi. Vous êtes sur Sud Radio. Tout va bien. À tout de suite.